Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Catherine Day, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour.
Bonjour.
Au programme de votre émission, Etanier Bleff. Vladimir Poutine menace et dit que cette fois-ci, ce n'est pas du bluff. Le président russe, dans une adresse à la Nation mercredi, a brandi la menace de l'arme nucléaire si la Russie était menacée. Un viol des principes fondateurs des Nations Unies, ont répondu de concert Emmanuel Macron et Joe Biden. Les réservistes et les hommes valides qui ont des spécialités militaires sont mobilisés. Les manifestations à Moscou réprimées. Jusqu'où ira Vladimir Poutine ? Premier grand sujet des grandes voix. L'un a reconnu avoir donné une gifle à son épouse. L'autre est accusé de violence psychologique contre son ex-compagne. Adrien Quatennens et Julien Bayou, mis au banc de leur parti et d'une classe politique qui essaye de faire bloc face aux violences sexistes et sexuelles. Les partis peuvent-ils continuer à rendre justice eux-mêmes en traitant ces affaires en interne ? Et que penser de cette surenchère politique, notamment encore hier, celle de Manuel Bompard ? Discussion à suivre. Après la Suède, l'Italie est sur le point de basculer à l'extrême droite demain lors des législatives. Giorgia Meloni, 45 ans, conservatrice, admirant Mussolini dans sa jeunesse, pourrait devenir la nouvelle présidente du Conseil à l'issue du vote. L'Europe, une nouvelle fois frappée par la vague nationaliste, de nouveaux déséquilibres qui ont ébranlé l'Union, et sa patronne, Ursula von der Leyen, qui n'a pas caché son émoi devant les étudiants de Princeton. On en parle en fin d'émission. Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. Et notre premier sujet se rapporte à cette déclaration de Vladimir Poutine. Écoutez, c'était mercredi matin.
Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Je dis bien tous les moyens, ce n'est pas du bluff.
Question simple, jusqu'où veut et jusqu'où peut aller Vladimir Poutine, Charles Villeneuve ?
Jusqu'au bout, jusqu'à son maximum, parce qu'il est affaibli. Les troupes russes se sont repliées pour éviter l'encerclement à Kharkiv, vous vous souvenez, le week-end dernier, à la même heure d'ailleurs. Et Poutine se retrouve, lui, encerclé politiquement à Moscou. Dans tous les médias d'État, l'invasion de l'Ukraine y était qualifiée, vous vous souvenez, d'opération militaire spéciale. Eh bien, c'est fini, elle est remplacée par le mot « guerre ». Et les partisans les plus durs de Poutine appellent eux-mêmes à la mobilisation générale. Toute la stratégie du chef du Kremlin qui était d'étouffer, d'asphyxier l'armée de Zelensky, de casser son économie, de briser son moral, doit changer. Et la contre-offensive du week-end dernier des Ukrainiens a déjoué son plan et l'oblige à le reconsidérer. Et Poutine doit faire la guerre avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire même de la perdre. Tout change, tout doit changer. Vous allez voir qu'il sera obligé d'intégrer la montée aux extrêmes par une manœuvre politique qui a commencé depuis hier.
Catherine Ney.
Écoutez, moi, il y a quelque chose qui me trouble beaucoup. Il y a 8 jours, il était, Poutine, à Samarcande, devant la réunion du groupe de Shanghai qui réunit la Russie, l'Inde, la Chine, la Turquie et les pays d'Asie centrale. Il pensait trouver un encouragement, ce sont ses alliés. Or, il a reçu une volée de bois vert. En arrivant en Ouzbékistan, le président de l'Ouzbékistan n'a pas été l'accueillir à l'aéroport. Et tous lui ont dit qu'il défendait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et tous lui ont dit maintenant, il faut négocier, il faut arrêter, et en des termes sûrement assez vifs. Donc, et il leur a répondu, oui, nous comprenons vos questionnements et vos préoccupations, dit Poutine. Et il revient, et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il lance, il a l'air de leur dire, cause toujours, je me fous de vous, voyez ? C'est ça qui est terrible. Bon, mais si derrière cette manœuvre qu'il vient de lancer, c'est-à-dire les référendums pour dire que vraiment on annexe, est-ce que c'était pas montrer la limite de ce que veut Poutine, c'est-à-dire l'annexion du Donbass, limite de guerre, et montrer aux Ukrainiens, regardez, on est prêt à négocier parce qu'il leur fait un cadeau inouï. C'est la libération de 215 prisonniers, dont les célèbres chefs militaires qui étaient les plus durs et que les Russes voulaient détruire comme des nazis. Ces nazis-là qui maintenant vont vivre jusqu'à la fin de la guerre en Turquie, protégés par le président Erdogan. Est-ce que c'est pas un moment de le dire ? Écoutez, voilà, on vous rend ces 215 prisonniers. Et est-ce que c'est pas une ouverture, mais à la Poutine ? Et en disant aux autres, moi je me suis posé cette question.
Michel Cotta.
Alors, effectivement, on peut se poser la question de la négociation vue et voulue, sans doute, par Poutine à un moment donné. Bon. Mais le problème, c'est qu'il se heurte quand même à un refus de négociation. Pour négocier, il faut être deux. Pour s'asseoir à la même table, il faut être deux. Et moi, de ce point de vue-là, j'étais très étonnée, par exemple, par la prise de position d'Emmanuel Macron à l'ONU cette semaine. Parce qu'au fond, quand il avait dit, je sais bien que tous les Européens lui sont tombés dessus, mais quand il avait dit « il faut ménager Poutine, il faut lui ménager une porte de sortie », et ça se finira de toute façon autour d'une table, pardon, mais il n'avait pas tellement tort. Bon, alors, évidemment, face à la pression générale, il est tombé, je trouve, à l'ONU, dans un sens complètement différent, au contraire, étant très, très hostile, très hostile à Poutine. Bon, mais on est tous hostiles à Poutine. Le problème, c'est que c'est vrai, c'est qu'il faudra bien en sortir un jour, et à force de ne pas le reconnaître, des gens comme Ursula von der Leyen ou tout ça, sont en train de compromettre quand même un espoir.
Thierry Carrérou.
Oui, alors je voudrais dire trois petites choses. La première, c'est pas du bluff. Moi, je me méfie un peu toujours les gens.
J'allais vous poser la question, comment est-ce qu'on peut analyser cette phrase de Poutine
Voilà, j'ai entendu souvent des gens dire, attention, je te dis ça, c'est pas de la blague, c'est pas du bluff. Et souvent, c'était justement parce que c'était de la blague ou du bluff. Donc, bon, enfin, ça, c'est une impression comme
attention,
ça.
De toute façon, vous allez nous le provoquer.
Mais c'est certains psychologues disent ça. Celui qui dit, attention.
Non, mais je sais bien.
Alors, mais enfin, c'est une simple remarque. La question fondamentale, c'est est-il aux abois et va-t-il aller au-delà? Bon, est-il aux abois? Bon, vous l'avez dit, je ne veux pas répéter, il est le dos au mur pour au moins trois raisons. C'est les défaites militaires, les défaites humanitaires, les cadavres mutilés qu'on retrouve, il y en a 30 au moins dans la dernière ville.
Ça a toujours été ça,
les Russes. Mais enfin, bon, c'est jamais bon qu'on découvre des cadavres mutilés dans une guerre. Et troisième chose, et vous l'avez dit aussi, donc j'y reviens pas à peine, c'est-à-dire la Russie. Non, mais simplement, les deux soutiens qui sont les plus soutiens Chine principaux, alors on ne peut pas dire qu'ils l'ont lâché, mais ils prennent leur distance. Oui. Donc il est globalement...
Il les gêne.
Il est globalement affaibli. Mmh. Face à ça, va-t-il utiliser l'arme nucléaire? Il y a deux possibilités. Moi, je suis assez... Par nature, je ne suis pas toujours optimiste. Je me dis quand même qu'il faut prendre ça au sérieux, parce que c'est... Bon. Mais deuxièmement, il y a peut-être là-dedans, en pointillé, l'esquisse d'une offre, alors elle est subliminale, paix. C'est-à-dire, je fais les référendums, je les gagne, j'ai donc conquis...
Si vous me foutez la paix,
j'ai conquis et on peut discuter maintenant.
Et mes buts de guerre sont atteints.
Mes buts de guerre sont atteints, donc j'ai gagné, et en même temps, j'irai pas plus loin, etc. Il y a peut-être ça, donc je n'en sais rien.
Mais ce cadeau des prisonniers l'indique, c'est ça qui est énorme et qui n'est pas compris par les ultras.
Donc je suis à la fois, je suis modérément pessimiste.
Ouais. Alors moi je suis, moi je pense que l'affaire des référendums est à double tranchant. Il annexe à la Fédération de Russie quatre territoires, dans le Donbass et à Kherson, qui est une ville stratégique. Il y a quatre villes stratégiques, il y a Kiev, il y a Berdyansk, il y a Mariupol, il y a Kherson. Or, rappelons-nous la revendication de récupération totale de tout le territoire des Ukrainiens et notamment du président Zelensky. Et donc, il est bien évident qu'il faut s'attendre à une attaque de chars, par exemple, sur l'un de ces territoires. Dès lors qu'il y a une attaque de chars, à ce moment-là, l'utilisation d'une arme de théâtre, ce qu'on appelle l'arme de théâtre. Nous n'en avons plus, nous, on s'en est débarrassé des armes nucléaires tactiques de terrain, donc de ce qu'on appelle une arme de théâtre en 97, Pluton et Hadès. Bon, lui, il a des armes nucléaires de théâtre, il a un râtelier plein d'un seul kilotonne, rappelons-nous qu'Hiroshima c'est 20 kilotonnes, d'un demi même kilotonne, et il peut l'utiliser quasiment pour la jeter sur un quartier. Pas plus, comme un avertissement, avec des retombées radioactives minimales. Bon, il peut le faire.
Mais des gens brûlés en dessous.
Oui,
C'est le but.
Oui, oui.
C'est ce que je viens de dire. C'est ça la bombe atomique.
C'est le but. Non, mais les, bon. C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que les gens, quand on parle d'armes nucléaires, on pense tout de suite à Hiroshima. C'est-à-dire ce que vous nous dites, Charles, c'est qu'il y a plusieurs,
dégradations. C'est ce qu'on appelle les armes de théâtre. Ouais. Nous, on s'en est privé par décision politique, etc. On a en 97 supprimé toutes les armes nucléaires tactiques, toutes les armes de traite. Nous avons des armes stratégiques à travers la force océanique stratégique, les quatre sous-marins, qui ont chacun 18 missiles plantés dans leur flanc, avec 6 bombes H sur chacune des têtes, c'est-à-dire 96 têtes nucléaires. Sur une seule lancée des 18 missiles des sous-marins. On en a 2 à la mer en ce moment. Bon, voilà. Donc on n'a rien
on
à voir.
On n'est pas en train de minimiser non plus.
Non. Et ça, il ne faut pas oublier que, pour moi, il ne peut pas perdre.
Il ne peut pas perdre la place.
Parce qu'il perdra sa place.
Il a déjà perdu.
Non, mais c'était exactement ça. Le vrai problème, c'est est-ce qu'il peut perdre? Quelqu'un comme lui fera tout pour ne pas perdre. Voilà. Là, je crois qu'il faut prendre, des choses telles qu'elles sont, parce que sinon, il faut dire, lui, il risque pas sa tête, et puis c'est pas sa tête à la tête de terre, c'est sa vraie tête. Donc, alors, en revanche, moi, je ne suis pas sûre du mouvement, on parle beaucoup du mouvement de mobilisation contre la mobilisation. Moi, je ne sais pas ce que l'opinion publique, vraiment, réellement, en Russie, pense. Je remarque quand même que les manifestations contre, ce sont toujours les mêmes images qui n'ont pas changé depuis 8 jours. Je ne suis pas sûre, je vois bien que des gens tentent de fuir, à leur place je ferai pareil, je ne suis pas sûre que l'impérialisme et le nationalisme russe soient vraiment menacés.
On en parle juste après la pause avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta et Gérard Carrère. À tout de suite pour Les Grandes Voix.
Les Grandes Voix d'Europe 1. 10h, 11h, Pierre de Villeneau.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrère, on parlait de la débâcle, de ce qui se passe en Russie. Est-ce une débâcle? Faut savoir. Faites prudent avec les mots, hein, Gérard Carrère.
Oui, je trouve qu'on va un petit peu vite quand on... Sur quoi on se... je reprends ce que disait Michel. Sur quoi on se fonde? Sur quelques images? On dit il y a eu 1300 personnes arrêtées. C'est toujours des images.
Des manifestations.
Je parle des images de manifestations. On vous dit tous les avions, etc., sont bondés pour partir, etc. C'est sans doute vrai. Mais je rappellerai simplement une chose historique. Chaque fois dans une situation de guerre, quand on décrète la levée en masse ou la conscription, il y a toujours une sorte de rébellion populaire. Parce que c'est pas un plaisir pour les gens d'aller faire la guerre.
Mais d'aller surtout, se faire trouer la peau.
Alors je rappelle simplement...
J'ai vu sur une télévision, les déserteurs fuient la Russie.
La révolution française...
Et l'Allemagne est prête à accueillir les déserteurs.
La révolution française montre bien que les chouans ont enregistré effectivement énormément de ralliements à partir du moment où la convention a décidé la levée en masse des soldats. En Amérique, lorsque la conscription a été instaurée pour la guerre du Vietnam, il y a eu des manifestations extrêmement importantes partout, et il y a même eu à Kent State University, il y a eu 8 étudiants qui ont été tués par la garde nationale qui a tiré. Donc, c'est jamais un plaisir. Alors, partir de là, honnêtement, moi, je sais pas. Comment l'opinion russe aujourd'hui va se déterminer. Je me doute qu'il y a une partie de gens qui sont en désaccord, mais est-ce que c'est 10%, 20% ou 40%? Qui peut me le dire aujourd'hui? On n'en sait rien. Et je pense que c'est un des éléments, c'est un des facteurs essentiels pour Poutine. Parce que s'il est pas plus fou, enfin bon, certains pensent qu'il est très fou, mais enfin, il est pas plus fou que la moyenne des humains.
Soyons
peut-être
prudents.
Pas trop. Et il voit bien, s'il y a un mouvement qui se lève, il va pas se précipiter dans des mesures qui vont de toute façon encore le rendre encore plus impopulaire. Donc je crois qu'il faut attendre encore un petit peu. C'est-à-dire, la mesure dans cette situation, et j'en ai assez d'entendre, les warmongers, les jusqu'au boutistes, à la mode Ursula von der Leyen, c'est toujours la même chanson.
Elle a fait une sortie à Princeton. Mais
oui, mais alors là, je commence à en avoir un peu.
Catherine.
Extrémiste Joe Biden.
Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que Poutine explique de faire cette mobilisation parce que sur les conseils de ses ministres de la Défense. Bon. Et alors, si on va chercher des réservistes qui n'ont pas envie de se battre, qui n'ont aucune et qui ne savent pas se battre, qu'il va falloir former. Bon, et ce qui est extraordinaire, c'est que
Poutine a dit en priorité des gens qui ont des spécialités militaires.
Hein. Oui, mais c'est pas
le
cas.
Oui, on voit bien que c'est pas vrai. On voit bien que c'est pas vrai. Tous les gens qu'on interviewe, parce qu'il y a aussi des images, ils disent pourquoi moi j'ai tenu une Kalachnikov pendant une heure il y a 25 ans. Non, c'est pas vrai. On va chercher des gens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Poutine part à 8h du matin à Moscou et 10h plus tard, on téléphone aux gens, présentez-vous dès le matin. Certains n'ont même pas le temps de dire au revoir à leur famille. Ils sont déjà en relais. Vous pensez bien que c'est quand même un choc terrible. Mais si on va chercher des gens qui n'ont pas envie de se battre, c'est est-ce que parce que les pertes de l'armée qui est régulière a été beaucoup plus forte que le dit Shoigu. Il n'y a eu que 5000 morts, et ce n'est pas vrai, évidemment.
Il y en a
beaucoup, et que Poutine veut préserver ce qui lui reste d'armée, qu'on envoie une sorte de chair à canon, et peut-être des gens qui ne se battront pas. Ça, c'est pour montrer qu'on a encore des gens, peut-être une réserve de 25 millions, et que tout le monde s'y mette, et que le chef de la... Kirilline,
Le chef de l'Église.
Le chef de l'Église, qui est un ancien du KGB, et disent, mes enfants, vous allez vous dévouer pour la patrie, et puis si vous mourrez, vous irez au ciel. Vous voyez, qui s'y mettent tout ça, pour forcer les gens. Et on leur dit, vous serez payés, vous ne perdrez pas votre emploi, et après, vous reviendrez à la maison. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et pourquoi on a l'impression en ce moment que Poutine, en envoyant ces gens-là, est en train d'essayer de ménager ce qui lui reste d'armée, parce qu'il y a eu trop de pertes, il lui en reste encore, mais il ne veut pas les envoyer maintenant, parce que peut-être que vis-à-vis... Oui, trop c'est trop pour une guerre qui ne peut pas gagner.
Attends, Catherine, attends.
J'attends.
Tu attends le 24 février.
Bien sûr. Oui. Mais quand tu dis finalement, il n'y a plus d'armée, il n'y a pas de spécialistes, tu caricatures.
Des conscrits,
même des réservistes. D'ailleurs, c'est pas les conscrits qu'on engage à l'heure actuelle. C'est une mobilisation partielle de réservistes. Bon, c'est-à-dire. En ce sens où ils ont des artilleurs, ils ont des hommes du génie, ils ont des hommes de la transmission, ils ont quelques spécialistes dans l'armée russe. Et puis, notamment des réservistes. Il ne faut quand même pas exagérer. Simplement, on n'en sait rien. Je rejoins Gérard là-dessus. C'est qu'on n'a pas d'idée précise sur le mouvement, si vous voulez, des récalcitrants ou les mouvements des volontaires. Ce qu'il y a, c'est que Poutine a perdu sa marge de manœuvre. Manifestement. Ça, c'est pratiquement sûr. Et si vous voulez, le Kremlin, pourquoi le Kremlin est réticent à une mobilisation massive? Parce que ça peut révéler les faiblesses du régime. Et ça a été exactement pour la pandémie de la même manière, pour la vaccination. Il n'a pas osé décréter une vaccination massive parce qu'il savait que plus de la moitié de la population russe n'irait pas se faire vacciner, n'ayant aucune confiance au vaccin mis au point par les Russes.
En fait, plus qu'à la rébellion de certains citoyens russes contre Poutine, il y a aussi l'indifférence formidable de la Russie, des Russes face à... Vous savez, c'est très très grand la Russie, et c'est écrit tout à fait dans Anna Karenine, ça, il y a tout une région, et une région multiple, dans laquelle les gens font simplement... sont simplement indifférents et attendent que ça se passe. Donc c'est pas si facile l'émotion de la Russie. Mais en revanche, moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est l'anecdote où deux personnes appellent un fils d'un grand dirigeant russe en lui disant « Alors rendez-vous demain matin » et on voit que le fils du dirigeant dit « Attendez, je réglerai ça » à un autre niveau. Ça veut dire qu'au fond, il y a deux catégories de la population. Il y a la catégorie qui est chère à canon, qui y va, qui ne peut pas dire non, et puis la catégorie des fils des oligarques, ou des fils des oligarques qui restent, ou des fils des dirigeants, qui, eux, peuvent s'abstraire de faire... Et ça, c'est quand même un élément oui. de dissociation formidable.
Moscou et la Sibérie, tu as tout à fait raison. Moi, je suis allé en Sibérie, je oui. peux te dire que alors, même aujourd'hui en Sibérie, il y a des endroits développés, bien. Mais il y a beaucoup d'endroits où on ne sait même pas ce qui se passe. Il y a Moscou et la Sibérie, hein, et ce n'est pas non, le même pays.
Les Russes sont à l'image de tous les autres peuples qu'on veut mobiliser. Ils vont faire ce qu'ils font le mieux, traîner les pieds.
10h29, une nouvelle pause, les grandes voix reviennent. À tout de suite.
Grande Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau des Grandes Voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. En quelques les jours Américains à peine, la NUP ou la NUPES se retrouve divisée un peu plus, non pas en raison de désaccords politiques, quoique, mais d'affaires de violences conjugales et morales. L'affaire Quatennens a de nouveau franchi un palier au travers d'un commentaire politique. Et cette fois, c'est un très haut responsable de LFI qui s'exprime, Manuel Bompard, le député LFI, invité hier matin de Laurence Ferrari sur CNews.
Non, je ne les minimise pas. Après, j'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent.
C'est le grand déballage et c'est la classe politique qui parle, Michel Cotta.
C'est la classe politique qui parle et c'est peut-être une nouvelle génération surtout qui parle.
C'est-à-dire
je pense que ce qui est pour la démonstration, par exemple, d'une gifle n'est pas un féminicide. Bon, on ne peut pas dire que ce soit complètement absurde ce qu'il dit, mais en revanche, c'est irrecevable pour un certain nombre de gens qui disent mais c'est par la gifle, justement, qu'on démontre que la femme est dominée, etc. Je crois qu'à chaque âge correspond sa bataille féministe. Nous, nous avons lutter sur vraiment et avec Simone Veil pour l'avortement. Peut-être là, c'est un vrai
c'est
accès,
un retournement.
Pas un retournement, mais une accélération formidable qui débouche, par exemple, sur des outrances aussi quand on entend Sandrine Rousseau. Quand on passe, si vous voulez, de l'un qui dit oh finalement une gifle c'est pas terrible, il faut distinguer entre les gifles et bon, et de l'autre. Quelqu'un qui rétablit la guerre des sexes, alors que ça, je crois, la majorité n'en veut pas, et qui se sert de ça comme une arme politique, et ça, il faudra voir si c'est une arme politique contre Mélenchon, ce que je pense vraiment, je crois qu'il y a des nuances. En tout cas, c'est vrai que la lutte des femmes est devenue un élément essentiel maintenant de la politique.
Gérard Carrérou.
Oui, je ne sais pas s'il y a un clivage. On dit qu'il y a un clivage de génération et c'est possible sur un certain nombre de sujets de société, comme peut-être celui-là. Il y a un clivage. Les jeunes peuvent être peut-être plus, extrémistes, si l'on peut dire. Je veux dire par là exigeants plutôt qu'extrémistes.
Parce qu'on a débarrassé devant elles.
Plus exigeants. Plus exigeants. Bon, cela étant, il faut balayer devant sa porte. Moi, je suis marié depuis 51 ans. J'ai posé la question. Je vais vous dire la vérité vraie, comme dirait l'autre, sans bluffer, hein,
est-ce
comme
que
dirait
tu, Poutine. Est-ce que, Jen, j'ai posé la question. Déposé une main courante.
J'ai posé la question à Jen il y a deux jours. Je lui ai dit, en 51 ans de mariage, est-ce que tu as le souvenir que je t'ai donné une gifle? Je croyais personnellement que je ne lui en avais pas donné. Mais je valais mieux vérifier auprès de l'intéressé.
Et qu'est-ce
elle
qu'elle
m'a dit? Non. Elle a réfléchi, d'ailleurs. Hein.
Elle a réfléchi.
Elle a réfléchi deux secondes et elle m'a dit non.
Bon. Ça n'a pas été spontané.
Non, mais je dis, c'est pas une
mais c'est très dangereux ce que tu dis là, parce qu'elle t'aurait dit oui, tu pouvais plus participer
oui,
au grand
mais
voix.
Je l'aurais pas raconté.
Ah ben oui, on t'aurait jeté immédiatement.
Je l'aurais pas raconté. Mais c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Non, mais je veux dire par là, il faut quand même balayer devant
ça
sa porte.
Vrai,
avant
non.
de faire des jugements.
On va signer un procès verbal.
Je reviens à la France insoumise. Je pense que Mélenchon a fait une erreur fondamentale dans sa première réaction. Après, il pourra toujours, il va encore essayer ce soir, il est, je sais pas, sur une télé quelque part, il va essayer d'expliquer, hein. Je crois qu'il a fait, dans sa vie politique récente, il a fait deux erreurs. La première, on lui a presque pardonné, c'était l'histoire de « je suis la République hein ».
Oui.
Mais on lui pardonnera, je crois qu'on ne lui pardonnera, la société,
durant
y compris, ne lui pardonnera pas la deuxième. Donc, je pense qu'il fallait condamner tout de suite et fort. Et quant à la justice des partis, moi je trouve qu'il y a une justice dans un pays. Elle peut être par moments déficiente, mais en tout cas il y a une justice. Il peut pas y avoir une justice et puis une justice médiatique à côté où on décrète qu'un tel. Hein, et puis une justice des partis où on décrète à la France insoumise que je trouve que c'est scandaleux. Il faut qu'il y ait une seule justice.
Oui. Moi, ce qui me fait rire, Catherine. C'est que, vous savez, j'ai toujours remarqué ça, que ceux qui font la morale aux autres, ce sont toujours ceux qui ont le plus à se reprocher.
Bon.
Et là, une fois plus, parce qu'il faut voir comment le parti s'est comporté vis-à-vis de Darmanin, hein, alors qu'il a eu des non-lieux, vis-à-vis d'Abad, dont on disait, mais il faut qu'il démissionne du d'ailleurs, il n'a pas pu rester ministre. Il a été accueilli, quand il est revenu, par des huées. Vous voyez, donc, c'était celui qui avait, Mais quand il s'agit de la France insoumise, alors là, vous voyez, déjà Coquerel, donc, on disait, mais c'est un bon député. Bon, c'était un gros relou qui avait... C'était pas une main courante, c'était la main baladeuse. Bon, mais là, maintenant, Katzin, ce qui est extraordinaire, moi, je dis que sa femme, est-ce qu'elle a pris la mesure et quelles étaient vraiment ses intentions? Parce que si vous allez voir les policiers, compte tenu du rapport entre LFI et les policiers qu'on attaque, dont on dit qu'ils sont toujours des tueurs, si la femme, Madame Quatennens, vient dire « mon mari me gifle » et elle leur a dit peut-être beaucoup d'autres choses, eh bien, ils ont saisi le parquet de Lille. Bon. Donc, est-ce qu'elle va tuer politiquement son ex-compagnon. Bon, lui, il a avoué l'avoir giflé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le courage, c'est de démissionner et de se représenter devant les électeurs. Moi, je pense qu'il faut faire trancher par les électeurs pour dire, est-ce que je suis digne d'être à nouveau votre député parce que je divorçais, il y avait de la violence et j'ai giflé ma femme. Vous voyez ? Ça, je pense que c'est une façon de s'en sortir.
Oui, moi, ce que je trouve très choquant et très nouveau, c'est plutôt la dénonciation de Françoise Rousseau par rapport...
Sandrine.
Mais je ne sais pas pourquoi j'ai Françoise Rousseau depuis ce matin.
Oui, mais Sandrine. Oui.
Donc c'est Sandrine. Oui. Mais c'est l'utilisation dans le même camp, si tu veux, d'affaires privées pour régler des rivalités politiques. C'est la prise d'otage de l'intime, en quelque sorte. On lève le voile sur ta chambre à coucher pour régler un compte politique, de rivalité politique. Ça me paraît... assez grave, parce que c'est le maltrap médiatique. Ah. C'est exactement ce qui est en train de se passer.
Attends, moi je suis absolument d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai dit que quand même derrière tout ça, il y avait quelque part des tentatives de déstabilisation de Mélenchon. Il existe néanmoins, que nous avons quand même pris conscience les uns et les autres, que le nombre de féminicides en France est tel qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Et donc, c'est là-dessus, évidemment, que repose le combat de toutes les femmes. Moyennant quoi, que certains soient assez contents de se débarrasser de Mélenchon, ça me paraît évident.
Et les femmes en premier, j'ai remarqué.
Une nouvelle pause et on revient avec les grandes voix, tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta. L'Italie vote demain, élection législative dimanche, demain pour l'Italie, qui pourrait voir, en cas de victoire de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni devenir la première femme présidente du Conseil du pays, mais aussi le retour des nationalistes au pouvoir. L'Alliance regroupe Silvio Berlusconi, Matteo Salvini. Quel avenir pour Meloni? Quel avenir pour ce pays? Et quel avenir pour ce pays dans l'Union européenne, Michel Cotta?
Alors c'est très intéressant le cas de Giorgia Meloni, parce que on a l'impression, bon, on dit mouvement post-fasciste, et effectivement, elle a pris ses racines dans ce monde post-fasciste. Mais il y a quand même en Italie, depuis, on voit bien depuis quelque temps quand même, une espèce de résurgence d'un mouvement qui demande de l'ordre, qui demande une lutte contre l'immigration, et au fond c'est là-dessus qu'elle maintenant
aussi, parce que c'est un point d'entrée de l'immigration via Lampedusa, hein, faut le rappeler.
On comprend très bien. Voilà. Alors en France, on a tendance à dire ah ben Giorgia Meloni c'est Marine Le Pen. Pas du tout. Tout est d'ailleurs, elle ne s'aime pas. Marine Le Pen est plutôt alliée de Matteo Salvini, qui est alors lui carrément un gros facho. Giorgio Meloni, justement, n'est pas dans le même groupe européen que Marine Le Pen. Elle n'a pas voulu l'être. Si elle est au fond comparable à quelqu'un, c'est à la rigueur à Marion Maréchal Le Pen. Pour son côté, quand même tout à fait conservateur sur les mœurs, sur son côté libéral, puisqu'on dit que la grande différence est religieuse. Ça, effectivement, il y a un lien entre les deux, et un lien qui, en tout cas, montre que l'Italie, qui reste quand même un pays chrétien, catholique, est très
conservateur du côté catholique.
Très conservateur, 25%. Elle a donc 25%. Alors le seul problème qu'on peut se poser, c'est est-ce que la coalition est une vraie coalition, puisqu'on sait que Berlusconi est pro-russe, comme Matteo Salvini, tandis que Giorgia Meloni est du côté américain.
Et donc ça, européen aussi.
Donc je pense quand même qu'il y a un ver dans le fruit dans cette
coalition.
Oui, voilà. Souvent, il y a un ver dans le fruit, mais en attendant, je pense qu'elle gagnera quand même dimanche.
Oui, Catherine.
Ben, c'est le mode d'élection italienne qui la favorise, puisqu'elle sera, elle aura le plus de voix. Je veux dire, s'il y avait la même chose en France, Marine Le Pen,
c'est
elle aurait...
Oui, c'est la coalition qui
l'emporte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que peut-être elle va devenir, elle va prendre arriver au pouvoir 100 ans, jour pour jour, avec l'arrivée de Mussolini. C'est le 30 octobre 1922, après la longue marche des
ça, c'est un symbole.
Bon, ça, c'est un symbole formidable. Or, elle, son idole, c'est Mussolini. Oui. Et elle en parle tout le temps. Parce qu'elle dit, ce qu'il a fait, c'était bon pour l'Italie. Il a travaillé pour l'Italie. Il a fait des choses pour l'Italie. Et c'est tout juste si elle concède maintenant que peut-être sa politique à l'égard des Juifs n'était pas la bonne. Donc, c'est quelqu'un...
Mussolini les a pendant très longtemps
ménagés. Ménagés.
Bon, mais elle sait quand même, elle dit que c'est le seul point où elle dit
non,
que peut-être...
Non, mais il a fait une grosse erreur, vous êtes allié avec Adolf Hitler.
Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc, mais ce qui est extraordinaire, elle va arriver et que Draghi, qui part, dit plutôt du bien d'elle, voyez. Et ce que je trouve extraordinaire en Italie, là j'arrête, c'est qu'elle va sûrement gouverner, puis ça ne va pas durer longtemps parce que les coalitions, mais en Italie, on est habitué par ces alternances. On parle de Mario Monti, le commissaire à la concurrence, le type le plus austère, qui va redresser les choses. Puis après, on arrive aux 5 étoiles avec ce fou du A. Et puis le 5 étoiles, Beppe Grillo. Là, il y avait Draghi. Il y avait Draghi que tout le monde enviait en disant c'est l'homme qu'il nous faudrait en France. Parce que là, et hop, on cède à quelqu'un à la plus extrême. Donc l'Italie aussi, pour nous, est assez incompréhensible. Et à chaque fois, quand on croit que ça va la redresser, ça ne redresse pas, quels que soient les uns ou les autres.
Oui, moi, je pense que ce qui se passe avec Mme Meloni en Italie, c'est ce qui s'est passé en Suède, où l'extrême droite suédoise vient de s'imposer comme la deuxième force politique du pays, comme en Pologne, comme en Hongrie, comme en France, comme au Royaume-Uni, du nord au sud de l'Europe, les nationalistes, les conservateurs exploitent avec succès la complaisance de tous les grands partis traditionnels, y compris en France, de gauche ou de droite, face à l'immigration illégale et à l'islamisme. C'est ça qui est en train de se passer. Ils n'ont pratiquement, en tout cas une partie de l'opinion publique, considère qu'ils n'ont rien fait. Ils sont restés, finalement, les bras croisés face à cette qualifiée, à exagérément un peu, d'invasion, si vous voulez. Et c'est la résultante de ce phénomène qui fait qu'on vote pour...
C'est
en partie un vote de ras-le-bol. C'est la banalisation des populistes.
Gérard Carreau.
Oui, c'est tout à fait juste ce que vient de dire Charles. C'est exactement ce que je crois vis-à-vis des trois scrutins qui se sont passés en Europe dans les derniers mois et qui sont dans trois pays. On peut pas, c'est des pays très différents. La Suède d'un côté, l'Italie et la France, c'est trois pays très différents de par leur histoire, leur passé, leur culture. Bon, c'est trois pays proches de chez nous en Europe. Dans chacun de ces pays, le moteur absolu, et ça tous les experts, tous les démographes, tous les analystes politiques l'ont souligné, le moteur principal, il y a toujours un moteur secondaire ou plusieurs, il y a parfois des problèmes intérieurs au pays spécifique, mais le moteur unifiant de ces trois scrutins, c'est non pas seulement le problème de l'immigration en tant que tel, le problème de l'immigration, mais surtout le déni par les gouvernements en place du problème de l'immigration. Non, il n'y a pas de problème, tout ça c'est normal, au contraire c'est une bonne chose pour la France, ou c'est une bonne chose pour la Suède, etc. En Suède, c'est caractéristique. Effectivement, quand ils ont atteint le chiffre, Mitterrand disait à 10% de population hétérogène dans un pays, ça commence à créer des problèmes, François Mitterrand. En Suède, ils ont atteint le chiffre de 20% de la population qui est constituée par des immigrés ou des descendants de première génération d'immigrés. 20%, ça a déclenché le processus. Et là, on a vu ça, et on a vu en France, 89 députés du Front National, je considère, et là aussi on le voit dans les chiffres, que le moteur principal a été, il y a sûrement eu d'autres raisons, mais une des raisons principales, ou la raison principale, c'est ça. Donc là, on a un phénomène européen, je m'arrête, populiste européen, de refus du déni de l'immigration.
J'ajoute quand même qu'il y a un point commun entre la situation de Giorgia Meloni et de ce qui se passe beaucoup dans tous les pays européens. Elle dit ça dans son autobiographie. Elle a publié une autobiographie qui a été un succès formidable en librairie. C'est comme ça, au fond, qu'elle a apparu.
En Italie ou dans le monde ?
En Italie. Et dans son autobiographie, elle fait tout un chapitre sur l'opposition entre le peuple et le palais. Donc il y a quand même aussi, au dehors de l'immigration, un vrai problème général, finalement, qu'on sent en France, qu'on sent partout, c'est, attention, le peuple est trop loin du palais. Et c'est là-dessus,
et donc de
quand
démocratie.
Même, et c'est là-dessus, avant même l'immigration, qu'elle est apparue.
Michel, c'est le même problème, parce que le déni de l'immigration, il est celui essentiellement des classes dirigeantes des divers pays.
On va voir si elles...
Les classes parce que les classes populaires, elles n'ont pas besoin, elles sortent dans la rue près de chez eux, elles le voient le problème. Le déni vient du discours politique. C'est le déni des élites vis-à-vis d'un problème.
Et c'est le déni aussi des solutions à apporter. Parce que moi,
le seul pays qui a trouvé une solution, c'est le Danemark.
Oui.
Qui a expliqué que dans les immeubles, au-delà de 15% d'immigrés, eh bien, ça en était fini, qu'on ne pouvait plus durer. Donc, ils ont fermé leurs frontières. Et ils demandent à ceux qui veulent venir de s'inscrire au Rwanda.
Et Ursula von der Leyen a dit quelque chose à propos du Danemark ou pas ?
Oui, non, mais ça...
On va en parler.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Gérard Carrero, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Ursula von der Leyen a déclaré devant les étudiants de Princeton ceci. Si l'Italie prend une direction difficile, nous avons des instruments comme pour la Pologne et la Hongrie. L'Union européenne tournant le dos à l'un des membres fondateurs, ça serait totalement surréaliste.
Totalement. Madame von der Leyen.
Charles Villeneuve.
N'a pas compris que si elle voulait construire l'Europe contre l'opinion des peuples, elle ne fera que renforcer le sentiment eurosceptique. C'est invraisemblable. Moi, je trouve qu'elle va beaucoup trop loin sur ce plan-là. On ne peut pas rejeter le vote des Italiens si se confirme demain soir ou lundi matin que Mme Meloni va être la prochaine présidente du Conseil italien. C'est la première fois d'ailleurs qu'une femme en Italie sera en quelque sorte le premier ministre du système politique. C'est invraisemblable. Comment vous conduisez une partie de l'Europe, et notamment là où elle est, c'est une des chevilles ouvrières, en rejetant complètement l'opinion du peuple italien.
Oui, je pense là qu'il y a un vrai problème, Ursula von der Leyen, qui est c'est pas parce qu'elle est allemande, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, c'est peut-être un réflexe, un vieux réflexe contre les Allemands ». Pas du tout. Simplement, je trouve que cette femme, qui n'est que une des chefs, il y en a deux, de l'exécutif européen, de la Commission européenne, c'est-à-dire que elle a peu à peu, au fil des derniers mois, pris une position prépondérante, au détriment d'ailleurs de ce qu'espérait le président français, puisque au fond c'était le rêve d'Emmanuel Macron d'apparaître comme la voix importante de l'Europe. Et franchement, aujourd'hui, on n'entend que Madame Ursula. Et Madame Ursula,
elle est en campagne,
mais elle a des positions extrémistes. Je parlais tout à l'heure de la guerre, on parlait de la guerre en Ukraine, elle assure l'Ukraine, elle y est allée en voyage à plusieurs reprises, elle parle en notre nom, nous, Européens et Français, au-delà de ce qui est acceptable. Je suis scandalisé que les chefs d'État, les autres, laissent Madame Ursula von der Leyen, sans avoir de compensation ou de réaction, prendre pratiquement la présidence de l'Europe, comme si elle était, comme M. Biden l'est aux États-Unis, le président de l'Europe.
Michel,
c'est incroyable.
Ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir comment son pouvoir a monté progressivement. C'est-à-dire qu'au début, c'était Henri Michel qui s'asseyait, vous vous rappelez, en la laissant debout devant Erdogan. Bon, et puis progressivement, c'est vrai qu'elle a pris une importance considérable, et notamment la guerre d'Ukraine lui a permis d'apparaître comme le porte-parole de l'Europe. Moi, je trouve que sur l'Italie,
elle y va tout le temps d'ailleurs.
Je trouve que avant même un vote, avant même quelques actions décidées par un gouvernement, on ne dit pas qu'on le condamnera. Je trouve que ça, vraiment, ça ne se fait pas. Absolument. Et elle n'aurait pas dû le faire. Elle n'aurait pas dû le faire.
C'est une pression, c'est une pression scandaleuse.
Et elle en remet une couche à la Pologne, dans le même cas. Catherine Ney.
Non, moi, je voulais revenir sur le discours du président à l'ONU, président Macron. Bon, c'est vrai que comme président de l'Union européenne, après tout, qu'il ait voulu essayer de trouver une négociation en disant peut-être avec... ça n'a pas plu qu'il puisse dire qu'il ne faut pas humilier Poutine. Alors, pensez bien que tous les pays tous les pays qui ont subi le joug soviétique, c'est un discours qui n'est pas tenable. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé, ça correspond bien à sa personnalité, le discours qu'il a fait sur l'ONU, quand on le lit plume à la main. Bon, mais c'est un soutien à l'Ukraine. Et il le dit très bien. Il dit, écoutez, il y a des Russes en Ukraine, il n'y a pas d'Ukrainiens en Russie. Quoi. Bon, ça c'est sûr. Mais la façon dont, sur un ton violent, il fait une leçon aux pays non alignés. Non alignés parce que leur silence approuve qu'ils soutiennent la Russie et que, dans le fond, il les traite presque de salauds. Enfin, c'est un discours, moi j'ai trouvé ça très violent. Alors quoi ? C'est quoi les pays non alignés ? Eh bien, les pays, lorsqu'il y a eu le vote sur l'Ukraine à l'ONU, les pays non alignés, au mieux, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas soutenu la Russie. Et qui a soutenu la Russie ? C'est l'Érythrée, la Syrie, la Corée du Nord et la Biélorussie.
C'est fini C'est fini pour les grandes voix. C'était le mot de la fin. Il fallait quand même en dire un petit mot. Merci à vous quatre et bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Enfants sont rentrés depuis 3 semaines. Alors on va s'intéresser à nos cantines scolaires et s'il y avait de bonnes surprises. Et puis on va partager un beau plat du jour avec Louis Chédid, des côtes d'agneau avec de jolis parfums la libanaise. À tout de suite.
Et pas des poissons panés. À tout de suite.